C'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûr de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Secret Livré, votre rendez-vous littéraire, culturel et historique de Radio Campus Paris, l'émission qui explore les coulisses de la littérature, qui vous en livre les secrets de fabrication, l'émission finalement qui se pose la question suivante, que disons-nous des livres et eux, que disent-ils de nous ? Alors cela fait maintenant 9 mois que vous nous écoutez au 93.9 FM, 9 mois, 9 ouvrages déjà explorés, que vous pouvez d'ailleurs aller revisiter sur le site de Radio Campus Paris, si ce n'est pas déjà fait. On a parlé jusque-là de Shakespeare, on a parlé de Flaubert, on a parlé de Edith Wharton et de Flannery O'Connor. Et au cours de la première émission, rappelez-vous, on a surtout parlé de Salinger. C'était en présence de la professeure d'université Morgane Jourdran et c'était en octobre 2019. Holden Caulfield, notre narrateur, est un adolescent américain de 17 ans qui quitte l'école prématurément avant les vacances, n'en souffle mot à ses parents et décide de flâner, plus ou moins, dans New York pendant quelques jours, seul, avec sa petite valise, quelques dollars dépensés bien vite et surtout une sorte de lassitude mêlée de colère qui l'emporte partout avec lui. On vous parlait donc de ce merveilleux roman d'apprentissage qui se déroule dans l'Amérique des années 50, sur un fond tourmenté d'angoisse nationaliste et de désintégration de l'unité familiale, entre fausseté mondaine et pression du rêve américain, bref, un roman sur, finalement, la difficulté de trouver un sens à sa vie quand on a 16 ans et qu'on est remonté contre la société tout entière. Et bien, chez Secret Livré, on aime les symboles, on aime le beau geste, et c'est pour ça que je vous parle de Salinger, puisque on va boucler la boucle, comme on dit, pour ce 10e et dernier opus de l'émission. Et oui, déjà. Et on va parler d'un roman qui a souvent été comparé à l'attrape-cœur. L'histoire est à la fois différente et semblable. Elle évoque des thèmes à premier abord variés, mais qui ne sont en fait, si on regarde bien de plus près, que les déclinaisons d'un même hurlement. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qui m'a mis là ? Et pourquoi faire ? Je vais vous parler aujourd'hui de Sylvia Plath et de son roman, son unique roman, La cloche de détresse. C'est un livre glaçant et drôle à la fois, qui témoigne en fait de l'exceptionnel talent de cette écrivaine, de son inventivité poétique et de cette immense lucidité qui a viré au fil du temps au pessimisme, cédant aux angoisses qui lestaient son esprit depuis de nombreuses années à la fin de sa vie, c'est ce qui l'a amené à finir ses jours. Je tiens d'ailleurs à annoncer donc dès cette introduction qu'il sera question dans l'émission de santé mentale et de suicide donc. Le roman raconte l'histoire suivante. La narratrice, Esther Greenwood, est une élève brillante qui a accumulé toutes les récompenses possibles au cours de son parcours académique et qui caresse l'espoir de devenir autrice. Elle devient lauréate d'un concours de poésie organisé par un magazine féminin appelé Ladies' Day. On est dans les années 50 et elle se rend à New York pour un mois afin d'y écrire des articles pour le magazine et participer à tout un tas d'événements organisés par l'entreprise et aussi d'y rencontrer les autres lauréates du concours. Ce qui devrait être un stage plaisant pour Esther se transforme en fait rapidement en cauchemar néanmoins à mesure qu'elle s'aperçoit de sa différence. Elle, fille d'une famille modeste, sans père, venue à la grande ville avec ses habits dépassés, face aux autres gagnantes, à l'aise dans leur robe cintrée, cigarette à la bouche, débordant d'argent et de confiance en elle, riches de siècles de traditions familiales qui les ont prédestinées à devenir des femmes du monde. Esther se sent isolée au milieu de la foule, déracinée, inadéquate, bien qu'elle soit prise sous l'aile de l'éditrice en chef de Ladies' Day, J.C., qui se reconnaît en elle un petit peu comme Miranda Priestly, se voit dans Andrea Sachs dans Le Diable s'habille en Prada.
I see a great deal of myself in you. You can see beyond what people want and what they need, and you can choose for yourself.
like that.
À mesure que passent les jours, Esther se vide de toute son énergie, se perd en hypothèses concernant son propre futur et fait l'atroce découverte suivante. Elle n'a finalement de substance que dans le cadre des réussites académiques de son passé. Regarder en arrière, pour elle, revient à compter les trophées, les médailles, les bourses universitaires et les diplômes qui font sourire de fierté sa vieille mère. Regarder en avant, par contre, c'est se pencher au-dessus d'un précipice noir et opaque. Esther Greenwood est en fait prise entre deux étaux contradictoires. D'un côté, la société, incarnée par sa mère notamment, ainsi que par son petit ami Buddy Willard, eh bien cette société, elle veut qu'elle devienne épouse. Qu'elle brille, certes, mais surtout au bras d'un homme, et avec dans ses propres bras à elle, peut-être, un ou deux enfants. Esther essaye d'ailleurs de se conformer à ce rôle, et pas simplement par faiblesse d'esprit. Il est tentant, finalement, de se laisser bercer par l'assurance d'une certaine unanimité, d'une certaine platitude. Une vie passée à se dévouer à un mari ne semble finalement pas si terrible si l'on sait exactement d'où l'on vient et où l'on va chaque jour de l'année et jusqu'à la fin. C'est préférable au doute. Mais de l'autre côté, l'instinct d'Esther la pousse à écrire, à être artiste et à être poète. Elle distingue ce que les autres ne semblent pas voir. Et comme pour Holden, le narrateur de l'attrape-cœur, cette aptitude lui pèse. Survolant le monde à une plus grande hauteur que les autres, elle s'aperçoit du même coup qu'au sol, tout est petit, tout est minable et laid. Elle désire néanmoins utiliser ce don pour devenir écrivaine, mais elle nage à contre-courant et le courant est trop fort. Son petit ami lui dit même à un moment que, lorsqu'elle aura des enfants, elle n'aura plus envie d'écrire. Il en est persuadé, et en fait il dit ça pour la rassurer. Mais Esther n'abandonne pas si facilement, et cette lutte contre les attentes de la société l'éreinte et l'entraîne dans une spirale négative dont elle ne sort finalement que grâce aux soins qu'elle reçoit dans une institution mentale, et encore, le doute persiste. En résumé, la cloche de détresse porte sur une héroïne extraordinaire, mais abattue par les attentes du monde qui sont devenues les siennes, et par un désir de perfection qui s'abîme évidemment aux affaires les plus quotidiennes. Esther ne laisse aucune place à la bassesse dans sa vie, ou bien seulement par à-coups autodestructeurs, comme pour goûter à une sucrerie longtemps interdite. Elle décide, par exemple, de coucher avec le premier homme venu, après avoir refusé à bien des avances pendant longtemps. Je cite « J'avais défendu ma virginité pendant 5 ans, j'en étais dégoûtée. » Ces actes ne reviennent pas à céder à des péchés dont elle aurait fondamentalement envie, mais plutôt à jouer le jeu des autres, à s'y jeter tout entière et sans nuance, comme pour dire « Moi aussi, eh bien vous voyez, je suis comme vous. » Et pourtant, elle ne l'est pas comme eux. Et pas une seule de ses tentatives de prétendre le contraire ne parvient à ses fins. Elle ne convainc personne de sa « normalité », entre guillemets, pas plus qu'elle ne parvient à s'extraire de son impénétrable solitude. Alors, penchons-nous sur ce roman, et avant cela, penchons-nous sur cette autrice, la formidable Sylvia Plath. La petite Sylvia voit le jour le 27 octobre 1932 dans la banlieue de Boston, dans un quartier de Jamaica Plain, surnommé d'ailleurs au XIXe siècle l'Éden américain, un autre témoin, s'il en fallait encore, de la propension à l'auto-mythification de la nation américaine. Sylvia est une enfant brillante, déjà très tentée par la poésie, puisqu'elle publie tranquillement son premier poème au grand âge de 8 ans. Hélas, l'Éden américain ne dure pas, puisqu'en 1940, quand elle a 8 ans, ou 9 même, son père adoré, Otto Plath, professeur à l'université de Boston et spécialiste des abeilles, meurt brutalement des suites d'une amputation de la jambe. Au moment où sa mère apprend la nouvelle à ses filles, Sylvia affirme, je cite, « Je ne parlerai plus jamais à Dieu ». L'esprit de Sylvia, jusqu'alors encore assez fasciné par le monde surnaturel, la magie, les fées et même la religion, devient comme de fer. Il se durcit, comme bien d'autres avant lui, au contact du deuil, et Sylvien devient plus rationnel, comme on dit, plus lucide aussi, et plus pessimiste. Et ça ne fait que commencer. Plus tard, elle reviendra sur cette période de sa vie comme la seule phase où elle ait été véritablement heureuse. Dans La cloche de détresse, Esther Greenwood, qui est très largement inspirée de Sylvia elle-même, dit la même chose. L'enfance, jusqu'à ses 9 ans, était un temps béni, et qui n'a été suivi que par une suite de peines et de déceptions. La perte de son père est un événement qui traverse l'œuvre de Sylvia, non seulement comme un thème, mais aussi en tant que trait de caractère de l'autrice, évidemment. Ce n'est pas juste qu'elle ait perdu un parent, c'est qu'elle ait perdu quelqu'un si jeune, si violemment, quelqu'un qu'elle aimait et qui l'effrayait un peu à la fois. Elle affirme d'ailleurs qu'elle, je cite, « détestait les hommes car ils ne restaient pas à l'aimer comme un père ». Elle affirme chercher l'amour inconditionnel de cette figure qui lui a été volée, mais ce n'est pas tout. Elle aimerait aussi devenir cette figure, elle aimerait l'incarner, et surtout, elle aimerait hériter d'elle cette liberté de mouvement qui est encore propre aux hommes à cette époque. Non pas que ce soit foncièrement différent aujourd'hui, mais bon, les choses changent. Elle envie donc aux hommes, je cite, « leur capacité physique de mener une double vie, leur carrière et leur vie sexuelle et familiale ». Alors ce thème traverse bien sûr La cloche de détresse, qui met en scène, comme je l'ai dit, le dilemme déchirant d'Esther, qui ne sait que choisir entre femme au foyer et poète, les deux étant présentés absolument comme antithétiques et mutuellement exclusifs. Et il ne faut d'ailleurs pas s'y tromper, c'était bien le cas pour Esther, comme ça l'était pour Sylvia. Cherchant à la fois l'amour et la liberté, celle du père, eh bien Sylvia et Esther se retrouvent toutes deux coincées dans l'interstice. Sylvia, elle, souffrant de dépression depuis un jeune âge, finit par trouver la mort par suicide à l'âge de 30 ans, un acte que certains qualifient d'instinct de survie, finalement. Elle s'est tuée pour pouvoir vivre, entendait-on dans l'émission de France Culture « Attention à la littérature » en 2000. Peut-être, pour pouvoir vivre comme elle l'entendait, n'a-t-elle trouvé en effet de solution que la mort. Son rapport au suicide est d'ailleurs curieux, particulier. Elle essaie de se tuer comme on va faire ses courses. Certaines personnes qui la connaissent soulignent ce drôle de rapport à sa propre mort. Clarissa Roche, une amie de Smith College, dit qu'elle parlait de sa première tentative de suicide comme d'une chose tout à fait ordinaire et banale. Je cite « Elle parlait de sa tentative comme d'un tournoi de tennis. C'était quelque chose qu'elle avait fait. Elle disait que la vie contenue en elle avait contredit toutes les pilules qu'elle avait prises, et hop, elle s'était relevée. » Alors on pourrait voir dans ce ton presque nonchalant une tentative de dédramatiser un acte d'une gravité extrême, mais je crois qu'il ne s'agit pas de cela. Il semble plutôt que Sylvia percevait vraiment son acte comme une chose assez banale, somme toute une conclusion logique. Dans le film Sylvia, un biopic sur l'écrivaine, avec Gwyneth Paltrow qui joue donc Sylvia Plath, largement centré sur la relation qu'elle a entretenue pendant environ 8 ans avec le poète britannique Ted Hughes, eh bien on voit la scène suivante. Ted est invité au domicile des Plath, et la mère de Sylvia prend le jeune homme à part. Elle lui dit « Sylvia a ingéré toute une boîte de somnifères. Elle est descendue au sous-sol, elle a trouvé un recoin sombre, elle s'y est glissée et a attendu sa fin. » Certaines personnes souhaitent qu'on les trouve. Sylvia, elle, voulait mourir.
Do you know that we found her right where you're standing, right under there, under the boards? You thought she was dead, she was so pale, so white. Some people want to be found, Sylvia didn't. She just crawled into a hole and waited to die.
Be good to her.
Always.
Sylvia, en effet, voulait disparaître. Un peu plus tôt dans le film, elle parle à Ted de cette tentative manquée et plaisante, sur un ton doux-amer. « J'ai pris trop de pilules et j'en ai vomi la moitié. Les gens prennent toujours trop de pilules. » Dans son œuvre, car c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, cet événement est abordé avec plus de grandeur et plus de gravité. Un de ses poèmes, les plus célèbres, « Lady Lazarus », explore la sorte de retour à la vie que l'écrivaine a ressenti après que l'on l'a trouvée, quelques jours plus tard, inconsciente mais vivante.
and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call.
Mourir est un art, comme tout le reste, je le fais exceptionnellement bien. On le verra, Esther Greenwood, dans La cloche de détresse, tente aussi de mettre fin à ses jours de la même exacte manière que sa créatrice. Une boîte de somnifères, un sous-sol dissimulé, et pour elle aussi, une force inconnue qui la rejette des mains de la mort. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle en a pris trop et qu'elle les a vomis.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Il n'est pas très pertinent pour nous de se pencher sur l'intégralité du parcours académique de Sylvia Plath, mais en résumé, donc, elle va à Smith College, une université très réputée réservée aux femmes à l'époque, puis elle est lauréate d'une bourse Fulbright pour aller étudier à Cambridge, à Newnham College. C'est en 1955, elle a 23 ans. Lors d'une soirée de lancement pour une revue littéraire au sein de l'université, elle rencontre le jeune poète Ted Hughes. Vous le connaissez peut-être pour ses poèmes largement inspirés de thèmes naturels, comme les animaux, la flore. C'est en tout cas un des thèmes les plus importants de sa poésie, et ça ne lui vaut pas que des compliments d'ailleurs. Pendant les recherches préparatoires à cet épisode, j'ai par exemple eu le loisir de lire le commentaire suivant de la part de l'utilisateur YouTube DanDan.
Plath was 10 times a better poet than Ted Hughes. She writes from the soul, he drones on about hawks and trouts.
Je cite, Plath était 10 fois supérieure à Ted Hughes. Elle écrit depuis les tréfonds de son âme, tandis qu'il monologue à n'en plus finir sur les faucons et les truites. Un avis mesuré comme on les aime, c'est là tout le plaisir de YouTube, bien sûr. Alors j'ai tendance à être d'accord, mais bon, tout est question ici de préférence. Pas de jugement de valeur absolue dans Secret livré. L'important, c'est que les deux poètes tombent follement amoureux l'un de l'autre et entament une relation très rapidement. Elle devient bien entendu un véritable cliché, puisque les amants s'écrivent des poèmes. Ils s'écrivent sur l'amour, sur lui, sur elle, bref, sur eux-mêmes. Le contenu de cette relation épistolaire est donc au départ très centré sur les amoureux, mais petit à petit, évidemment, eh bien, la nouveauté de leurs sentiments s'effrite. Passé ce premier cap, il est parfois difficile de renouveler les sujets, mais Sylvia et Ted, bien sûr en tant qu'artistes inspirés devant l'éternel, s'aperçoivent qu'au lieu d'un appauvrissement, ils vivent en fait à ce moment précis une sorte de libération. Sylvia exprime d'ailleurs ce soulagement dans une interview donnée avec Ted en 1961, quelques années après leur mariage.
And then something happened. I don't know what it was. I hope it was all to the good, but we began to be able to, well, somehow free ourselves for other subjects.
L'union des deux amants est incroyablement fertile pour Plath, qui écrit bien plus qu'avant, encouragée par Ted. Ils sont tous les deux persuadés d'avoir trouvé en l'autre tout ce qui leur manquait à eux. Ted parle d'une union, je cite, télépathique entre Sylvia et lui, un thème assez commun, lui aussi, parmi les grands couples d'écrivains et d'écrivaines, qui n'apportent d'ailleurs pas que des joies. C'est dans son poème Love Song, chanson d'amour, que Hughes écrit « Dans le pêle-mêle de leur sommeil, ils s'échangeaient bras et jambes. Leurs cerveaux se prenaient l'un l'autre en otage dans leurs songes. Au matin, chacun portait le visage de l'autre. »
In their entwined sleep, they exchanged arms and legs. In their dreams, their brains took each other hostage. In the morning, they wore each other's face.
Le poème tout entier transgresse le thème de la chanson d'amour et du couple enlacé pour faire de leurs bras une prison et de leur amour une malédiction qui les étouffe, leur union n'étant plus féconde mais à l'inverse destructrice, leur faisant oublier qui ils sont, qui ils étaient avant l'autre. Sylvia et Ted finissent d'ailleurs par se séparer, entre autres raisons parce que Ted a une relation adultère avec la femme d'un ami écrivain du couple qui s'appelle Asya Weevil, ou Weevil, je ne sais pas exactement, et parce que Sylvia se sent étouffée dans son rôle de mère. Elle a deux enfants, elle s'occupe d'eux et ne parvient plus vraiment à écrire. Afin de remplir les caisses, elle prend également un poste d'enseignante, elle gère la dactylographie de Ted, qui lui connaît un assez grand succès avant elle, et finalement elle se perd, comme son héroïne Esther Greenwood dans La cloche de détresse. La relation entre Ted et Sylvia, tant sur le plan émotionnel que créatif, a souvent été qualifiée de codépendante, le terme étant accepté dans un sens général et pas spécifiquement psychoanalytique. Il s'agit d'un thème récurrent d'ailleurs lui aussi dans les relations entre artistes, tant et si bien que des œuvres entières lui ont été consacrées, par exemple The Anxiety of Influence, l'anxiété de l'influence, par Harold Bloom, qui évoque la difficile quête d'identité des artistes, influencés à la fois par des générations qui lui précèdent et par la personne qui partage leur vie. Mais comme souvent, même les cadres d'analyse théorique ne considèrent pas les hommes et les femmes comme des sujets d'études égaux. Une preuve en est la production littéraire de Plath, qui, jusqu'à sa rencontre avec Ted, a été qualifiée par beaucoup comme « œuvre de jeunesse ». Cette appellation, vous le voyez, fait coïncider la maturité avec l'amour d'un homme, le passage à l'âge adulte avec la relation amoureuse. Uniquement pour la femme, bien entendu. Ceux qui défendent cette opinion soulignent par exemple le parallèle entre certains poèmes de Plath et de Hughes, par exemple « Faucon sous la pluie » de Hughes et « Corbeau noir sous la pluie » de Plath. Que Sylvia ait pu influencer Hughes est, de façon intéressante, complètement exclue du débat, mais admettons, il a toujours été plus intéressé qu'elle dans les thèmes de la nature. Mais quand bien même, les poèmes sont de toute façon différents, ne témoignent pas du même regard sur le monde du tout, et au lieu de pointer vers une sorte d'union des deux esprits ou d'une influence énorme de Hughes sur Plath, eh bien plutôt, ces deux poèmes réitèrent la spécificité de leur génie poétique respectif.
Secret livré.
You can't.
Alors maintenant, parlons un peu de l'œuvre. J'ai déjà insisté sur le fait que Esther Greenwood était inspirée de Sylvia elle-même. Le roman appartient donc en cela au courant dit « confessional », le courant de la confession, qui gagne en popularité pendant que Sylvia fait ses études de lettres aux États-Unis. Elle est notamment exposée aux écrits de Robert Lowell et Anne Sexton, tous deux des têtes de proue de ce mouvement, qui autorise l'expression de sentiments jusque-là dits tabous, peu acceptés, même dans le canon littéraire, qui devrait, on pourrait penser, justement sublimer les peines et les malheurs. Dans les années 50, se développe donc dans cette direction ce qu'on appelle « the admission of admission », une expression qui s'articule autour d'un double sens dans la langue anglaise, puisque le mot « admission » signifie aussi bien « aveu » que « admission » au sens de, d'internement dans un établissement psychiatrique. « The admission of admission » se traduit donc globalement par « l'aveu d'internement ». Alors en français, évidemment, comme toujours, cela perd un peu de son panache, mais vous avez compris l'idée. On admet enfin qu'il est possible d'avoir un problème. On admet enfin qu'il est possible de souffrir mentalement. Et il n'est pas anodin d'ailleurs que Anne Sexton s'inscrive dans ce mouvement. Sexton était une écrivaine et poète américaine, une mère, elle aussi, qui eut bien du mal à se trouver un équilibre entre les attentes de sa famille, ses propres désirs et la pression qu'elle ressentait en tant qu'artiste. Au croisement de ces différentes projections, elle a été victime elle aussi, tout comme Plath, d'une crise liée à cette espèce de déchirement identitaire, ce grand écart impossible pour une femme dans la société américaine des années 50. Alors pour revenir rapidement sur ce que j'évoquais en première partie, sur l'influence ou non d'ailleurs de Ted Hughes sur les sujets de Plath, j'ajouterai ici que lors d'une interview, suite à la publication de son premier recueil de poésie, intitulé The Colossus, Sylvia répond à une question sur les thèmes qui l'inspirent en tant que poète. Elle dit la chose suivante. « Dans ma jeunesse, eh bien, c'était les abeilles, ou par exemple, ou la pluie qui m'inspirait, la nature finalement, qu'elle qualifie de « cadeau du ciel » pour tous les poètes jeunes qui n'ont pas encore de choses à dire sur eux-mêmes. Ce qui l'inspire désormais, donc à l'âge adulte, selon elle, c'est ce qui se passe dedans, à l'intérieur, dans l'âme finalement. Elle qualifie ses nouvelles émotions d'ailleurs, ses expériences personnelles, souvent tragiques, de profondément américaines, consciente sans doute de la spécificité de la société dans laquelle elle évolue à l'époque. Bon donc, dans La cloche de détresse, eh bien l'écrivaine parle de ses tourments intérieurs, ceux d'Esther Greenwood, ceux de Sylvia Plath. Bien sûr, la littérature dépasse la vie tout autant que la vie dépasse la littérature, et donc une sorte d'équivalence totale entre Esther Greenwood et Sylvia Plath serait malvenue, même peu pertinente, mais on peut dire sans trop se tromper que les deux femmes sont en fait la même, représentent la même chose, le même parcours. Les parallèles sont trop nombreux et trop précis pour l'ignorer, et d'ailleurs, un des personnages du roman, Joan, une femme, une personne rencontrée à l'hôpital psychiatrique, eh bien la vraie personne qui a inspiré ce personnage a porté plainte auprès de Plath post-mortem, car elle se reconnaissait trop dans le personnage et n'appréciait pas du tout l'image donnée d'elle. Pour cause, Plath, dans son roman, a donné la mort à ce personnage, par suicide d'autant plus. Les tourments que j'évoquais à l'instant sont multiples, mais tous liés à cette quête d'identité et de liberté que j'évoquais en première partie. Un des éléments les plus marquants dans le roman tient au fait que la liberté n'est pas comprise comme une infinité de choix, puisque Esther a le choix. Elle a tellement même le choix qu'elle en devient oppressée. Et cette liberté, finalement, n'est pas à trouver dans cet horizon infini de choses que l'on peut faire, mais plutôt dans la possibilité de faire un choix sans sentir que l'on abandonne le reste. Une des métaphores les plus célèbres à ce titre dans La cloche de détresse, c'est celle du figuier. Vous l'avez peut-être déjà rencontré par le passé. Il s'agit de ceci. Esther se décrit comme étant assise au pied d'un figuier, donc. Elle observe les belles figues bien mûres qui lestent les branches de l'arbre, et chaque fruit représente une voie, un avenir. Une des figues, par exemple, c'est la vie de mère au foyer, la figue voisine représente la vie de poète à succès, etc. Esther n'en cueille pas une seule. Elle les observe, elle les regarde, mais elle est incapable d'en choisir une seule, et paralysée, elle est finalement témoin de ceci, les figues pourrissent sur les branches et tombent une à une autour d'elle. À la fin, l'arbre, évidemment, est dénudé, décharné, et Esther n'a rien pu faire. L'image est assez limpide, bien sûr. Esther est incapable de prendre son destin en main, et le trop-plein de choix et son indécision l'empêchent d'avancer. C'est un trope d'ailleurs bien connu en art, semblable à l'angoisse de la page blanche. Quelque chose est toujours mieux que rien. Mais cette situation, apparemment exogène, en dit tout aussi long sur le personnage d'Esther que sur ce qu'elle est en train de vivre. Si Esther ne parvient pas à choisir, ce n'est pas seulement parce qu'on l'oblige à abandonner l'une ou l'autre de ses options, mais parce qu'elle-même s'est tant habituée à garder toutes les portes ouvertes, à réussir tout ce qu'elle entreprenait, que le fait d'essayer dans une voie revient véritablement à essayer. « To commit », dit-on en anglais, un mot qui se traduit par « se consacrer à quelque chose », mais qui sonne encore plus décisif et encore plus fort. Et Esther peine à « commit », peine à s'engager vraiment, et elle est tout aussi coupable, finalement, que victime par son inaction. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle déplore chez elle et qu'elle méprise dans sa propre personnalité. Alors, je parlais aussi en introduction de la comparaison souvent faite avec l'attrape-cœur de Salinger. Plath a lu le roman, comme beaucoup d'étudiants et d'étudiantes d'ailleurs en littérature de son âge, et elle a été marquée, comme les autres, par le ton irrévérencieux de Holden Caulfield, par sa croisade contre la fausseté américaine. Elle écrit d'ailleurs dans son journal, des années avant d'écrire La cloche de détresse, qu'elle souhaiterait que son héroïne ait, je cite, « un ton cynique, familier, une voix comme celle de Holden ». Et dans l'histoire des romans, il existe des parallèles entre les deux œuvres. Par exemple, les deux narrateurs sont encore dans l'adolescence, ils ont 17 et 19 ans respectivement. Tous deux se rendent à New York, et sans savoir vraiment comment s'y comporter, et tous les deux prennent une fausse identité à un moment dans le roman, tous deux vivent des expériences négatives liées à la sexualité. Par exemple, Holden, vous vous souvenez peut-être, paie une prostituée, avec laquelle finalement il ne se passe absolument rien parce qu'elle le déprime trop, puis il se fait frapper par le proxénète qui essaie de l'entuber, et Sylvia, elle, se fait agresser sexuellement par un homme nommé Marco, et sa première fois à elle, cette fois consentante, se conclut par la suite, par une hémorragie interne assez grave qui l'emmène à l'hôpital. Peut-être de façon moins immédiatement évidente, mais je pense plus intéressante, les deux personnages ont une relation compliquée avec les figures qui font office de guide ou de mentor dans leur vie. D'abord, Holden reçoit un bon nombre de leçons de vie par ses professeurs, notamment Mr. Spencer de Pensy Prep, son école, qui se prend d'affection pour le garçon et essaie de lui faire voir raison. Mais le ton qu'il emploie, néanmoins, ne plaît absolument pas à Holden, qui le trouve à la fois condescendant, infantilisant et ennuyeux, tout ça à la fois. Il ne veut pas décevoir le vieil homme, certes, mais au fond, c'est plus par pitié que par réel désir de rectifier son attitude à lui. Esther, elle, est prise sous l'aile de JC, je l'ai dit, l'éditrice en chef du magazine Ladies Day, mais ses leçons à elle tombe finalement à plat, de même. Habituée à être au centre de l'attention, Esther en fait ne s'émeut même plus suffisamment de la confiance que l'on place en elle. Il lui semble même que ce n'est pas à elle qu'on parle, mais à une sorte d'image construite par ses succès antérieurs. Pendant une conversation d'ailleurs censée être importante et sérieuse sur l'avenir de la jeune femme, elle se prend à imaginer JC en pyjama, les cheveux tout défaits, au lit avec son époux obèse, je cite. Enfin je cite de façon assez lâche. Enfin, les deux personnages, Esther et Holden, témoignent d'un même instinct de fuite vis-à-vis de ce monde qu'ils ne comprennent pas et qui, en retour, ne le comprend pas non plus du tout. Holden, vous vous souvenez peut-être, Holden tire des plans absolument délirants sur la comète avec sa petite amie Sally Hayes, du genre partir habiter dans le Vermont et prétendre être sourd-muet, tandis que Esther, elle, se fantasme dactylographe ou encore serveuse en Allemagne, sans autre raison que l'envie de partir. Partir, effacer qui elle est et qui elle n'est pas, effacer tous ses choix qu'elle n'arrive pas à prendre. Le fait de choisir une carrière si éloignée des buts qu'elle s'était originellement fixée, d'ailleurs, est une ligne de défense assez classique. En gros, me voilà en route pour décevoir tous les espoirs qu'on avait placés en moi, oui, mais c'est un choix. L'inverse du figuier, donc. Bien entendu, dans le roman, aucun de ces plans n'est mis en œuvre. Le figuier, donc. Les deux romans sont donc liés par le narrateur et par leur tonalité, mais le parallèle atteint sa limite si l'on compare en fait les deux voix de façon assez rapprochée. C'est quelque chose qui frappe quand on lit La cloche de détresse. La voix de Esther Greenwood, la voix donc de la narratrice qui porte tout le roman, est vraiment incroyable. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est vraiment de lire ce roman, même si vous devez arrêter d'écouter l'émission, juste aller lire le roman, c'est vraiment un bijou littéraire. Bref, donc Esther est à la fois dotée d'un humour pince sans rire, précis vraiment comme la lame d'un scalpel, qu'elle enfonce d'ailleurs dans tout ce qu'elle voit, et à la fois d'une sorte de profondeur et de lourdeur, d'intensité je dirais abyssale, qui donne le vertige si l'on s'approche de trop près. En gros, selon ce qu'elle choisit, tout peut sembler absolument futile ou absolument pressant et important. Par exemple, les vêtements qu'elle porte sont à la fois source de mépris pour elle, qui se voit comme au-dessus de ses considérations matérielles, mais elles sont aussi source d'une envie, d'une irrépressible jalousie pour celle qui se présente au monde avec plus d'assurance que elle ne pourra jamais en avoir. Évidemment, ce ne sont pas les vêtements qu'elle envie, ce n'est pas le costume, mais l'actrice. Et comme elle est intelligente, elle en est bien consciente. Ce qui fait qu'elle achète de beaux habits à New York, puis les balance, un à un, par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, observant leur chute comme autant d'actes poétiques. C'est la même chose pour la nourriture, les petites verrines élégantes gratuites du magazine. Elle se rend au buffet et elle en mange beaucoup trop, tout simplement parce qu'elle peut, et parce que les verrines appartiennent à un monde stable dont elle est exclue, de fait. Parce que manger des petites verrines à la crevette et à l'avocat, finalement, ça revient à savoir qui l'on est. L'ironie, bien sûr, et c'est là un trait de génie de Plath, c'est que les verrines rendent tout le monde malade. Il y a une intoxication alimentaire généralisée dans l'hôtel. Les crevettes étaient mauvaises. Sylvia nous fait un clin d'œil ici et nous dit « Eh bien, la certitude, les petites verrines ne sont peut-être pas aussi belles qu'elles en ont l'air. » C'est aussi la force du roman, cette faillite des certitudes. Si l'écrivaine s'était moquée de sa narratrice, si elle avait par exemple montré par sa plume que Esther se trompe, et qu'il faut choisir en effet pour mettre fin à ses tourments, eh bien, elle aurait écrit un livre différent. Il aurait été lui-même plein de certitudes. Il aurait été, je pense, plus aride, moins bien, tout simplement. Esther et Sylvia, on le rappelle, sont la même. Aucune des deux ne prend de figue dans l'arbre.
Secret livré.
J'en profite, avant de terminer cette émission, pour vous remercier si vous avez écouté ce programme, si vous avez écouté les autres, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle ou fan invétéré, oui, c'est possible. Merci d'avoir soutenu ce projet tout au long de l'année, tout au long de cette saison radiophonique qui fut riche en émotions. Et si Secret Livré vous manque, bien n'oubliez pas que vous pouvez aller réécouter tous les podcasts sur le site internet de Radio Campus Paris. Et que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, @secretlivré, secretlivré tout attaché sans accent, sur Instagram et sur Twitter. Pour ma part, je vous souhaite un très bel été, une bonne continuation, et j'espère vous retrouver sur les ondes très bientôt. Et je vous fais la bise.
These long, lonely evenings, here I am on the phone, wondering when she will call. She said she would write me, 'cause she knows I'm alone, but I hear nothing at all. Whisper
her name? Why did she go away? The tears on my pillow, they're not hard to explain. There's nothing else I can say.
She calls me. broad shoulders, mowed tears. You're alive and I'm still here. As some half human creature thing, can you bring life to anything?
I left home to prove to those who loved me most that I had someone in me that they did not know. Who were they to say what I could not be? I'd show them that my life was up to me. I got in with the right crowd and I made some friends. What do I mean to you? They said that depends. But their love I sought, and their love I'd win. I went through hell, and I'd do it all again. And for what, Lord? They'd like to know who made me, where I'm from. How'd you go unloved, unnoticed for so long? We're so glad to have you, please stay a while. Sweet delivery, but their words beguile. 'Cause up until this time they had not made a sound. And it turns out what I wanted only let me down. So I hope